10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM. Une émission cette semaine consacrée en totalité à Noël. Alors vous allez me dire, de quoi allez-vous parler ? Ben on va parler de tout. On va parler de la dimension familiale, de la dimension commerciale, de la dimension religieuse ou pas, pour certains d'entre vous, de l'inflation, de l'impact de l'inflation, de la Covid. Est-ce que les familles vont se réunir comme elles aimeraient le faire avec ce retour de l'épidémie, qui n'est pas simplement la Covid, puisqu'on a la grippe, on a la bronchiolite pour les petits, il y a une forme de télescopage des épidémies. Donc on va évoquer tous ces sujets avec mon équipe, Zora à la réalisation, Loupineda et Fodil Belhamri qui m'accompagnent, mes deux journalistes qui m'aident à préparer l'émission et qui interviennent aussi au cours de l'émission, puisque vous connaissez leur voix maintenant. Bonjour Lou.
Bonjour Karine.
Ça va, tout va bien?
Bah super, j'ai hâte d'être demain.
Bon, bah oui, demain, tu nous diras d'ailleurs ce que tu fais pour le réveillon de Noël. Donc, on va attaquer cette émission avec la dimension religieuse ou pas. Noël, beaucoup disent c'est une fête religieuse, d'autres disent non, c'est une fête païenne. Et toutes les familles de France se réunissent autour d'un repas. Parfois, posent un sapin dans le salon, les cadeaux au pied du sapin le lendemain du réveillon pour que les enfants se lèvent en joie. Et d'autres familles estiment que c'est une fête religieuse à laquelle on doit consacrer une cérémonie, un protocole, et on voulait commencer cette émission avec cette double dimension. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lou, à ce niveau-là, concernant nos concitoyens? On a des sondages, on a des éléments de statistiques, comment appréhende-t-il Noël?
Écoutez Karim, le jour de Noël est considéré plutôt comme une grande fête familiale et à ce titre, elle est célébrée par un grand nombre de gens à travers le monde. Mais à l'origine, il s'agit bien d'une fête religieuse suivie uniquement par les chrétiens. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes considèrent Noël comme une fête extrêmement importante puisqu'elle est marquée par la naissance de Jésus. Mais finalement, c'est bien le Père Noël et son traîneau, la liste des cadeaux, le sapin et les lutins qui sont les symboles de Noël les plus visibles aujourd'hui. Alors peut-on encore parler d'une fête religieuse? Selon un sondage CSA, seulement 15% des Français associent encore Noël à la religion. Pour l'énorme majorité d'entre eux, c'est d'abord une fête de famille. Une étude Odoxa pour Le Parisien révèle les mots les plus associés à Noël par les Français. Pour 96% des sondés, Noël est représenté par le mot « familial ». Puis pour 92%, c'est le mot « convivial ». Arrive ensuite le mot « commercial », puis le mot « joyeux ». Et 84% des Français considèrent que Noël est surtout l'occasion de bien manger.
Ah, c'est important quand même ce chiffre de 15% des Français seulement relient Noël à la religion. C'est ce que dit le sondage.
Exactement Karim, le sondage CSA.
Alors, appelez-nous au 01 53 48 3000 pour nous dire si vous, vous considérez que Noël est une fête religieuse ou une fête païenne. Est-ce que vous fêtez Noël à la maison, en famille? Appelez-nous, composez le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, et nous vous prendrons à l'antenne pour vous faire témoigner. On a le plaisir d'accueillir sur notre antenne Xavier Accard, qui est le rédacteur en chef de la revue Prier, et qui est auteur d'un livre aussi, L'art de la prière, aux éditions Emmanuel. Xavier Accard, bonjour.
Bonjour Karim.
Merci de nous consacrer un peu de votre temps ce matin. Il était important pour nous d'avoir un éclairage d'un sachant, si je puis dire, sur Noël, sa signification, la manière dont on consacre la fête en famille, avec une dimension religieuse pour 15% de nos compatriotes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à ceux qui nous écoutent, Xavier, la signification de Noël pour nos compatriotes pratiquants de la religion chrétienne, catholique et protestante?
Oui, avec plaisir. En fait, tout ça part d'une belle histoire, parce que d'un conte, il y a 2000 ans, il y a une famille sous l'Empire romain, quand l'Empire romain occupait la Judée et la Galilée, bien, il y avait une famille composée de Joseph, de Marie, sa jeune épouse, qui était enceinte, et qui ont été poussés pour le recensement qu'avait décrété l'empereur romain, à revenir dans la terre d'origine de leurs ancêtres, qui était à Bethléem. Et donc ils sont arrivés, ils n'avaient pas de maison, Marie était enceinte, et ils ne trouvaient pas de place, en fait, dans la salle commune. Et donc ils ont trouvé la place dans une étable. Il y a, à cette époque-là, à Bethléem, il y avait des étables dans des grottes. Et là, un enfant est né qu'ils ont appelé Jésus. Alors, à partir de ce récit un peu fondateur, il y a les différentes dimensions de Noël qui peuvent se développer. Et d'abord, le fait que cette famille ne trouve pas de place dans la salle commune et que Jésus naisse dans une étable au milieu des animaux, dans les mauvaises odeurs, et qu'on le couche dans une mangeoire. Donc ça renvoie à la fois à la dimension très profonde théologique, parce que les chrétiens pensent que Jésus, c'est Dieu qui s'est uni à l'humanité. Donc c'est l'abaissement en quelque sorte de Dieu qui est le sans limite et qui prend la condition humaine. C'est symbolisé par cette condition misérable, mais c'est aussi la fête des pauvres, de la pauvreté en quelque sorte. Et donc Noël est une fête de l'hospitalité où on est plus sensible aux pauvres. Ensuite, il y a une dimension, c'est une naissance. Alors on célèbre une naissance, et les chrétiens ont même trois messes. C'est un des seuls jours dans l'année pour célébrer.
Alors, quel moment sont les messes, Xavier ? Dites-nous un peu.
Alors, il y a une messe qui est au cœur de la nuit. C'est la messe de minuit, c'est la plus connue, qu'on retrouve dans les contes d'Alphonse Daudet avec les trois messes du curé, là, du Mont Ventoux.
Donc, c'est le 24 au soir à minuit.
Voilà, exactement. Et ça représente, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça se passe au cœur de la nuit, et en fait, Noël est fêté lors du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où le jour est le plus court. Et Jésus représente ce germe de lumière qui va naître au cœur de notre nuit et qui va grandir ensuite jusqu'à Pâques, où il va triompher des ténèbres en quelque sorte. Donc il y a la messe de minuit, la messe de l'aurore qui est célébrée au lever du jour, et puis la messe de midi le lendemain, le 25 à midi.
Voilà. Donc le 24 au soir à minuit, le 25 à midi, et la troisième messe
Et le 25 à l'aurore en fait.
À l'aurore, pardon.
À minuit, à l'aurore et à midi. Comme il y a trois étapes de la lumière, en quelque sorte. Il y en a une qui peut symboliser l'engendrement éternel de Jésus, qui est le Verbe de Dieu, dans le mystère de Dieu qu'on voit pas. À l'aurore, ça peut être son apparition dans l'histoire, il y a 2000 ans. Et puis, à midi, c'est la naissance de Dieu dans l'âme, puisque les chrétiens pensent que le Christ doit prendre de plus en plus de place en eux. Jean-Baptiste, qui annonce qu'il est le cousin de Jésus et qui l'annonce, dit: moi, il faut que je diminue et que lui croisse. Et c'est un peu aussi l'image des deux solstices, c'est-à-dire que à partir du solstice d'hiver, la lumière de Jésus va croître, et à partir du solstice d'été où est fêté Saint Jean-Baptiste, la lumière descend. Voilà, il y a aussi un lien, vous voyez, avec le cosmos, les cycles cosmiques.
D'accord. Et au cours de ces trois cérémonies religieuses, on voit clairement nos compatriotes chrétiens se rendre dans les églises pour assister à la messe, Xavier.
Alors en fait, non, il y a la messe de l'aurore et la messe de midi sont peut-être moins fréquentées, mais la messe de minuit, oui, la messe de minuit reste une... Alors c'est pas la fête la plus importante pour la spiritualité chrétienne, c'est Pâques la fête la plus importante, mais pour les familles, c'est la messe la plus fréquentée, si j'ose dire, et en effet, les églises sont pleines, il y a même plusieurs messes le soir, il y a une messe pour les enfants à 5h, et puis il y en a une à 18h30, et puis il y en a une à 10h, et puis parfois il y a une messe à minuit, parce que si tout le monde venait ensemble, les églises ne suffiraient pas à contenir toutes les personnes qui viennent. C'est vraiment la grande messe familiale, puisque le Noël, c'est aussi une fête de la famille. Vous voyez, à Pâques, il y a Marie, Joseph, Jésus, donc c'est la Sainte Famille. Donc c'est aussi l'image de toutes les familles qui se réunissent comme cette famille, en quelque sorte, originelle, et qui sont heureux, ou moins heureux d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des tensions aussi à Noël, ça réveille aussi toutes les vieilles blessures familiales. Mais en tout cas, on se réunit pour la fête de Noël dans la nuit.
C'est marrant parce que vous me ravivez des souvenirs, moi, d'enfance, parce que je suis né entre une grand-mère musulmane et une grand-mère catholique, et ma grand-mère catholique, tous les 24 au soir, effectivement, m'invitait à suivre à la télé, puisqu'elle retransmise à la télé la messe de minuit. Alors, je comprenais pas trop ce qui se passait. Elle m'expliquait, ma grand-mère Hélène, que paix à son âme, qui est partie il y a pas très longtemps et qui a très bien vécu, puisqu'elle a vécu jusqu'à 97 ans. Et donc cette je dirais, ce respect des croyances, cette laïcité apaisée que moi j'ai grandi dans ce credo-là, dans cet état d'esprit-là. Et donc vous me raviez des souvenirs, et je pense que de nombreuses effectivement familles françaises le 24 au soir à minuit se réunissent lorsqu'elles peuvent pas se rendre à l'église devant la télévision pour suivre la messe de minuit. On pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes de mobilité, nos personnes âgées, nos aînés. Je pense à eux aussi qui sont souvent seuls. Ouais. Et Noël leur donne du baume au cœur avec ce rattachement aussi à leur croyance. Quand on dit que 15% des Français rattachent Noël à la religion, Xavier, vous êtes surpris ou c'est un chiffre qui vous paraît normal dans le contexte de la société française et l'évolution de la relation aux religions?
Écoutez, ça peut s'entendre, hein. Ça correspond à peu près au nombre de catholiques qui vont à la messe une fois par an. Enfin, c'est 10%, je crois. Donc 15%, oui, ça manifeste malheureusement aussi la au-delà même de la religion, la baisse de la culture religieuse, parce que ce qui est un peu malheureux, parce que ça nous coupe de toute une partie de notre patrimoine. Quand on va dans un musée et qu'on voit une nativité, on ne sait plus de quoi il s'agit, alors qu'il y en a des milliers, etc. C'est un peu triste, mais écoutez, c'est une réalité certainement sociologique. Hein.
Vous qui êtes croyant, pratiquant, je suppose, et en plus rédacteur en chef de la revue Prier, je le rappelle, et auteur d'un livre, L'art de la prière, aux éditions Emmanuel, vous considérez que ces polémiques qu'on voit émerger, on en parlera tout à l'heure, au cours de notre émission, avec les crèches dans les halls de collectivités locales, crèches qui rattachent effectivement à l'histoire religieuse de cas Jésus et donc à ce que vous nous avez expliqué, vous trouvez ces polémiques inutiles, stériles, dommages, donc comment vous les qualifiez en tant que croyant, pratiquant? Vous êtes touché, ouais, par ces polémiques, ou vous estimez que la Ligue des droits, oui, de l'homme, puisque c'est la plupart du temps cette grande association humaniste qui s'empare du sujet, elle est dans son rôle pour faire respecter les principes de laïcité, comment vous réagissez?
Non, je pense que c'est un peu idiot de la part de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas besoin d'agiter ces chiffons rouges. De toute façon, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que la religion disparaisse. Et de toute façon, il y a une déchristianisation. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les choses se font, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Et c'est vrai que je trouve ça un peu triste, parce que ça manifeste à la fois d'un côté une mauvaise conception de la laïcité très restrictive, et puis il y a aussi de l'autre côté de ceux qui en rajoutent en faisant la publicité à leur crèche, etc., pour faire monter la pression. Ils récupèrent un peu la religion dans un but purement identitaire et politique, et tout ça me navre un peu, parce que Noël, il y a une autre dimension de Noël. Jésus est appelé le prince de la paix. C'est vrai qu'il vient apporter la paix, on l'a vu dans l'histoire d'ailleurs récente. Lors de la Première Guerre mondiale, il y avait ces scènes extrêmement émouvantes de ces soldats qui, pendant 4 ans, étaient dans des tranchées, dans des conditions absolument horribles, qui se tuaient les uns les autres alors qu'ils étaient cousins ou frères, et qui, le soir de Noël, il y avait cette force de la paix qui était plus forte, et ils sortaient de leurs tranchées, ils partageaient les aliments qu'on leur avait envoyés pour le réveillon, et ils faisaient une fête fraternelle avant le lendemain matin de reprendre leur guerre. Mais il y a cette force de Noël qui est aussi qui devrait être un lieu de paix et pas un lieu justement de division, de guerre, et de récupération politique.
Oui, c'est vrai. Vous restez avec nous, Xavier. On a un rabbin, oui, et un imam qui est avec nous en ligne.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Émile Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune rabbin. On est très heureux de vous avoir en ligne. Et on a avec vous Ali Damani, imam à Marseille, au sein de la mosquée de la Caplette. Bonjour Ali.
Bonjour Karim, bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous, avec Xavier, en ligne, Xavier Ackar, hein, rédacteur en chef de la revue Prier, auteur du livre L'art de la prière aux éditions Emmanuel. Émile Ackermann, jeune rabbin, et Ali Damani, imam à Marseille. J'ai envie de vous demander à tous les deux, au sein de vos communautés respectives, la communauté juive et la communauté musulmane, quel est le rapport à Noël? Est-ce que c'est une indifférence totale, ou est-ce qu'il y a des familles qui, malgré tout, prennent Noël sous l'angle d'une fête païenne, et se réunissent en famille, mettent le sapin et festoient? Donc, Émile, je vous pose la question d'abord à vous.
Écoutez, pour moi, je vais séparer la fête de Noël et l'esprit de Noël, parce que pour la majorité des Juifs, la fête de Noël est une fête religieuse. C'est comme ça qu'on la perçoit. C'est la fête qui célèbre la naissance de Jésus. Donc pour nous, ça n'aurait pas trop de sens de la célébrer. De plus, il y a quelque chose d'un petit peu triste au niveau historique qui se rajoute à ça. C'est que souvent, la nuit de Noël, eh bien, se finissait par des massacres de Juifs dans certaines localités dans le monde. Et c'est pour ça que c'est encore une raison de plus de ne pas la célébrer. Mais je conçois que pour certaines familles, ce soit une bonne ambiance. C'est plus une occasion familiale, comme on a dit juste avant, une façon de se retrouver en famille. Mais moi, là, quand je vous parle, on est vendredi, je vais raccrocher, puis je vais cuisiner pour 10 personnes que je vais recevoir vendredi et samedi. Parce que pour nous, les Juifs qui célébrons le Shabbat, on a un petit peu cette ambiance de repas familial toutes les semaines. Donc on n'a pas véritablement besoin de cette ambiance de Noël, cette occasion de Noël pour se retrouver. Les personnes croyantes qui ont déjà leur référentiel, elles n'ont pas besoin de Noël. Par contre, je pense que toute personne qui vit en France, elle est habitée par cet esprit de Noël. Moi, je viens de Strasbourg, j'ai des très très bons souvenirs du marché de Noël. On a une bonne humeur qu'on pourrait même peut-être voir à Paris de manière surprenante. L'esprit de charité, la fête des pauvres et de l'hospitalité, comme a dit Xavier. Donc ça, je pense que toute personne peut s'y retrouver. Mais il y a très 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 peu de juifs, en tout cas de juifs pratiquants, qui ont déjà leur référentiel et leurs habitudes, qui célèbrent Noël, parce que ça n'aurait aucun sens pour eux.
Et vous nous dites quelque part aussi que toutes les semaines c'est Noël chez vous avec Shabbat.
Donc, c'est ça, exactement.
Donc ça, c'est important aussi de le souligner. On va faire une petite pause et je vous invite à rester branché sur Beurre FM dans l'émission Les Engagés, parce qu'on a Xavier Accard, qui est, encore une fois, je vous le répète, rédacteur en chef de la revue Prier, auteur du livre L'Art de la Prière aux éditions Emmanuel, qui nous fait partager, j'avais dû dire, l'histoire de Noël du point de vue des pratiquants, des catholiques, des protestants, des chrétiens dans notre pays. C'est une fête importante pour eux. On a Émile Ackermann, qui est un jeune rabbin, qui nous dit, la communauté juive, non, elle ne fait pas Noël sous l'angle religieux, évidemment, donc, mais tous les aspects festifs, conviviaux, de générosité, évidemment qu'on n'y est pas insensible. Et puis on va prendre aussi Ali Damani, qui est avec nous, qui est l'imam de la mosquée de la Caplette, qui est la plus grande mosquée de Marseille. Donc restez avec nous, c'est important d'avoir ces trois personnalités qui nous parlent de religion dans notre pays qui est habité par nos principes de laïcité qui s'imposent à tous, mais qui n'est pas une religion de plus, la laïcité. La laïcité, c'est le respect de la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire pour chacun d'entre nous. Faut-il le rappeler ? Eh bien, on le rappelle. À tout de suite, les amis. Restez branchés.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
On est de retour dans Les Engagés, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Une émission consacrée à Noël en totalité. C'est le choix que nous avons fait avec l'équipe qui m'accompagne. Nous avons décidé d'aborder Noël sous toutes ses facettes, dimension religieuse ou pas, fête commerciale, avec l'inflation quand même qui est là, on va en parler tout à l'heure, vous verrez, les chiffres explosent en matière d'augmentation des prix, la dimension de la mobilité aussi, c'est le moment où on se retrouve en famille, mais avec la grève SNCF, beaucoup ont des soucis pour se déplacer. Nous aurons un contrôleur de la SNCF en ligne qui nous expliquera pourquoi ils font grève, la Covid qui est toujours là, les épidémies, je devrais dire, avec la grippe, la bronchiolite qui touche les enfants. Là aussi, on aura un professeur avec nous qui nous dira s'il faut être vigilant. Alors, on poursuit notre débat avec Xavier Accard, qui est rédacteur en chef de la revue Prier et auteur du livre L'Art de la Prière aux éditions Emmanuel, Émile Ackermann, qui est rabbin et qui est avec nous, Ali Damani, qui est imam à Marseille. J'ai demandé à Émile Ackermann avant la pause si les juifs fêtaient Noël. Il me dit non, on ne fête pas Noël, mais en quelque sorte Noël c'est toutes les semaines chez nous, avec Shabbat qui débute le vendredi et qui se termine le samedi samedi en fin de journée. Et c'est vrai que c'est un grand repas festif où on se retrouve en famille autour des préceptes de la religion juive. Émile Kerman, je lui demanderai aussi tout à l'heure la fête Hanouka, parce que je crois qu'elle tombe aussi dans cette période. La signification, vous savez, on est dans un pays laïque, mais laïcité ne dit pas opposition religion. Laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience pour chacune et chacun d'entre nous, de pratiquer ou pas une religion, tout en partageant les valeurs de la République. Monsieur Damani, imam à Marseille, les musulmans, quelle est leur relation à Noël? Vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes l'imam de la Caplette, la mosquée de la Caplette, qui est la plus grande mosquée de Marseille. Donc, et vous êtes aussi membre de la fédération de la Grande Mosquée de Paris.
Tout à fait.
Dites-nous, Ali.
Karim, sachez que Noël, c'est la joie, c'est la tolérance, c'est la fraternité, c'est le partage. Donc il n'y a pas de mal pour les musulmans de se réunir en famille afin de partager un bon repas. Sachez que le plus important, c'est d'avoir une bonne intention d'être en famille et non d'avoir une intention de fêter Noël, parce que dans l'islam, nous avons deux fêtes. C'est la fête l'Aïd el-Sirir et ainsi que l'Aïd el-Kébir. Donc pour nous les musulmans, depuis donc tant d'années, moi je suis né ici sur Marseille, dans cette belle cité phocéenne. Et donc je constate qu'il y a des musulmans qui se réunissent donc le 24 décembre en famille avec les enfants, mais c'est juste une réunion conviviale et familiale. Donc,
mais vous qui êtes un imam né à Marseille, français, donc d'origine algérienne, et vous accueillez dans votre mosquée des musulmans français, nés sur notre sol, Marseille ou pas, mais vous accueillez aussi des musulmans récemment arrivés, donc votre mosquée est ouverte à tous. Vous voyez une différence sur la dimension de cette approche culturelle dans la relation à Noël, en fonction de l'ancienneté, de la présence des musulmans sur le sol français, pour ceux qui sont nés ici, ceux qui seraient nés de l'autre côté de la Méditerranée ou dans les pays d'Afrique subsaharienne, où tout un chacun s'accorde à dire non, c'est une fête aussi païenne, on fait pas de crèche à la maison, on n'a pas de sapin, mais pour nous, culturellement, ça fait plaisir aux enfants, donc on se réunit en famille. Quelle est la relation des musulmans à cette fête? Pour eux, ils la rattachent à une fête religieuse, la fête de Noël, ou ils disent non, c'est une dimension païenne et ça peut être aussi notre fête quelque part?
Non, mais en fait, Noël, c'est une coutume que voilà, que toutes les familles donc se réunissent. Sachez qu'il y a des pratiquants qui sont assez stricts, qui ne se réunissent pas, qui sont qui disent que Noël c'est une fête chrétienne. Mais lorsqu'on peut constater qu'il y a des musulmans qui se réunissent, ce n'est pas pour donc fêter Noël, c'est pour donc se réunir avec les enfants pour leur offrir des petits cadeaux. Donc il n'y a pas de mal particulier. Sachez que Noël se fête aussi donc dans le Maghreb. On peut aussi constater que au Maroc, en Algérie, en Tunisie, certains musulmans fêtent également Noël. Donc c'est une coutume, mais ce n'est pas Noël dans le sens religieux. C'est plutôt une coutume que donc certains musulmans donc se réunissent en famille. Donc il n'y a pas de problème particulier. Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne intention.
Et d'ailleurs, Jésus est un prophète reconnu dans la religion musulmane.
Tout à fait. Sachez que vraiment, mais que Jésus est un prophète que l'islam respecte énormément. Dans le Saint-Coran, il est cité 25 fois le nom Jésus.
Émile Ackerman, vous êtes toujours avec nous. Merci Ali pour ces précisions. Restez avec nous. Émile Ackerman, je parlais de Hanouka, qui est une fête juive qui tombe dans quelle période? Rappelez-nous-le. Et dites-nous en quoi elle consiste, cette. Je crois que c'est la fête des Lumières, non?
C'est ce qu'on appelle la fête des Lumières. Elle tombe justement souvent aux alentours de Noël, peut-être un petit peu avant, souvent peut-être parfois un petit peu après, puisque nous avons un calendrier qui est exclusivement qui n'est pas exclusivement lunaire ou solaire, mais les deux. Donc ça tombe à peu près toujours à la même période de l'année. Et ça consiste à célébrer par l'allumage de bougies deux choses qui sont d'un côté une victoire militaire de l'époque il y a 2000 ans, que les Judéens, donc les Juifs qui habitaient en Judée, en Palestine, et on célèbre parce que ils ont réussi à repousser les Grecs qui voulaient les assimiler de force et qui voulaient les persécuter et les empêcher de pratiquer leur religion librement. Et de l'autre côté, on célèbre aussi le fait que à la suite de cette victoire militaire, nous avons les Juifs retrouvent le temple et peuvent de nouveau célébrer leur culte comme à l'époque où il y avait donc un temple à Jérusalem, là où il y a maintenant la mosquée, avec là où il y a l'esplanade des mosquées, il y avait un temple juif à l'époque. Et les Juifs devaient allumer une bougie, un candélabre donc de 7 branches qui ne devait jamais s'éteindre. Et ils n'avaient pas trouvé assez d'huile pour pouvoir allumer cette bougie entièrement. Mais finalement, ils avaient une seule huile qui devait durer un seul jour et qui a finalement duré 8 jours. Donc on célèbre pour 8 jours aussi ce miracle-là de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours au lieu de juste un. Donc c'est en même temps une victoire matérielle et en même temps une victoire spirituelle. Et je trouve que ça rentre bien d'ailleurs dans le thème de la laïcité puisque les Juifs allument la Hanoukia, donc allument ce chandelier à 8 branches, à 9 branches si on compte la branche supplémentaire, et bien on l'allume en face de la fenêtre parce que on veut réclamer justement cette position dans l'espace public en disant nous voulons que ce miracle soit visible, nous voulons que notre célébration soit visible. Donc je pense que ça peut rentrer dans le débat de la laïcité aujourd'hui, dans le fait que la religion a toute sa place dans l'espace public, que ce soit le sapin de Noël, les crèches de Noël, mais encore la fête des Lumières des Juifs, où nous pensons que nous pouvons tous coexister dans le même espace.
Merci Émile pour cette pédagogie, cette explication. C'est important de savoir dans notre grand pays, au principe laïque, la connaissance des religions, religion catholique, la religion juive, la religion musulmane. Xavier, vous êtes avec nous. Merci oui. Xavier Akar. Quand on entend ce rabbin, ce jeune rabbin, cet imam de Marseille, on se dit que on a l'impression qu'on est, on a un problème, presque, on a un complexe vis-à-vis des religions. Dans notre pays, sous couvert de laïcité, parler de religion serait presque malsain. Et on ne peut pas sortir de cette spirale, de cette approche qui nous enferme plus qu'elle nous libère. Connaître les religions, c'est connaître l'autre, c'est grandir, c'est progresser, c'est ouvrir son esprit avec une approche de respect. Vous ne pensez pas qu'il est dommage qu'on ne soit pas plus dans l'apprentissage des religions, la connaissance des religions dans notre pays?
Bien sûr, bon, tout ça c'est un héritage un peu lourd et un peu triste du combat des laïcars contre l'Église en quelque sorte. Hein, et donc ça s'était un peu apaisé et c'est vrai que peut-être oui. Enfin bon là je m'engage un peu sur un terrain glissant parce que je me place pas là comme historien ou comme sociologue, mais je vous rejoins tout à fait. Je pense que on gagnerait en plus à se connaître mutuellement. Moi, je sais que je suis toujours passionné. J'ai fait quelques visites dans des synagogues et je suis toujours passionné de découvrir la liturgie du judaïsme parce qu'on retrouve énormément de. Enfin, c'est notre souche en quelque sorte à nous chrétiens. Et puis le dialogue en effet avec les imams, les musulmans et extrêmement intéressant. Moi personnellement, j'ai fait une grosse étude sur René Guénon, qui était un intellectuel français qui justement a essayé de dégager des principes communs aux différentes traditions. Donc en plus ça m'intéresse particulièrement.
Et d'ailleurs, ce dialogue interreligieux, vous le considéreriez comment aujourd'hui? Vous diriez qu'il y a une vitalité autour de ce dialogue interreligieux, nonobstant effectivement ce qu'on a évoqué sur les laïcars peut-être qui s'opposent aux religions plus qu'ils ne les respectent. Est-ce que ça existe dans ce que vous traitez dans votre revue? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une volonté que des religions chrétiennes, musulmanes et juives à se retrouver et à tisser des liens dans notre grand et beau pays?
Oui, il y a ce désir. Alors c'est vrai que avec le judaïsme, là, depuis notamment Vatican II, il y a eu vraiment beaucoup de travail qui a été fait. On a vraiment beaucoup progressé. Il y a pas mal maintenant de d'intellectuels juifs ou de rabbins qui étudient les évangiles et puis les chrétiens se passionnent, notamment avec le passage de Monseigneur Lustiger en France qui a eu ce rôle si important, et ils se passionnent aussi pour découvrir leurs racines juives, etc. Avec l'islam, il y a aussi, c'est peut-être moins développé à mon avis, ça mériterait peut-être d'être un peu plus poussé. Bon, il y a des raisons, je pense, historiques, géopolitiques et autres, mais je pense que c'est vraiment crucial pour construire l'unité dans notre pays, quoi. Et donc ça, je l'appelle vraiment de mes voeux, mais un dialogue en vérité, quoi. Il faut pas avoir peur de pointer les différences tout en se respectant en tant qu'homme, quoi.
Bien sûr.
Par exemple, autour de Jésus, je trouve que c'est formidable. C'est vrai que les musulmans ont un grand respect pour Issa. Il y a même des confréries soufis en Algérie, la Mostagadem, qui sont très marquées par la figure de Jésus, etc. Et en même temps, il faut reconnaître les différences d'approche de Jésus. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend à se respecter, parce que on connaît vraiment l'autre, quoi. Mmh. Et il faut pas rester dans le flou, je pense, autour de notions qu'on n'approfondit pas. Et c'est vrai que de cette rencontre entre les religions, entre les croyants, c'est formidable. D'ailleurs, je pense que là, quand j'ai eu votre invitation, je me disais que j'étais vraiment très heureux, et je me disais peut-être que entre juifs, musulmans, chrétiens, on a quand même cette foi au Dieu transcendant, au Dieu unique. On attend à la fin des temps finalement la résurrection des morts et la justice. Ça nous est commun, et c'est quelque chose qui est très fort par rapport justement à cet esprit laïcard de la Ligue des droits de l'homme et d'autres personnes qui tuent l'âme et qui tuent l'esprit. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment appelé à se rencontrer et à faire corps d'une certaine façon.
Restez avec nous, Xavier. Ali Damani, ce dialogue interreligieux, il existe à Marseille? Il est vigoureux, il y a une vitalité, il y a une dynamique autour ou pas?
Oui, bien sûr. Donc, oui, depuis 1590, il y a eu donc la création de Marseille Espérance, qui réunit donc tous les dignitaires des religieux, rabbins, prêtres, musulmans, bouddhistes. Et on se rencontre assez régulièrement, pour qu'on puisse faire quelques événements. Donc je ne vous cache pas que hier j'étais en fait invité pour célébrer Abba Hanouka. Donc j'étais avec la communauté juive et donc j'ai partagé ce grand moment de joie qui m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs.
Merci. Quand on vous entend, Xavier, Émile et Ali, on se dit, mais finalement, donc ça fonctionne dans notre pays. On se rencontre, on s'apprécie, on se respecte. Les dimensions de générosité, de solidarité, de souhait, de fraternité, elles existent dans ces trois religions. Certains essaient de mettre de l'huile sur le feu, de diviser. C'est insupportable de voir ces tentatives de fracturation de la société française, alors que nous avons des hommes d'église au pluriel qui se retrouvent, qui se réunissent et qui se parlent, qui travaillent ensemble, qui veulent avancer et qui respectent les valeurs de la République et les principes de laïcité. Il n'y a pas d'opposition. On va avoir Séverine Maroun après la pause. Séverine, bonjour, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Première adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois. Vous allez nous parler de votre marché de Noël à Aulnay après la pause. Restez avec nous.
Plaisir.
Je l'ai vu, il est fabuleux ce marché. Il est magnifique ce que vous avez fait. Vous allez nous dire un petit peu qui le fréquente, qu'est-ce qu'il y a dans ce marché. Donc, on est avec vous dans quelques minutes, Séverine. Merci.
Merci.
Petite pause, les amis. On revient dans quelques minutes.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans Les Engagés, les amis. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble. Une émission aujourd'hui consacrée en totalité à Noël. Nous avons Xavier Accard, qui est le rédacteur en chef de la revue Prier et auteur du livre L'Art de la Prière aux éditions Emmanuel, qui est avec nous. Émile Ackerman, qui est rabbin. Ali Damani, qui est imam à Marseille, la mosquée de la Caplette, qui est la plus grande mosquée de Marseille. Nous avons Séverine Maroun, première adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois, que je vous ai présentée avant la pause. Et c'est avec elle que je repars sur cette séquence jusqu'à à peu près 11h. Nous sommes ensemble pour évoquer les initiatives qui ont été prises par les collectivités locales à Aulnay-sous-Bois. Séverine, vous avez mis en place un marché de Noël.
Oui, tout à fait.
Alors, ce marché de Noël, expliquez-nous d'abord. C'est chaque année que vous le mettez en place ou c'est une initiative un peu nouvelle à Aulnay-sous-Bois?
Non, on l'a lancé en 2014, lorsque notre maire Bruno Béchiza a été élu. Donc, c'est la 9e édition.
9e édition. Bruno Béchiza, que nous avons reçu pendant 2 heures dans les locaux et dans les studios de Beurre FM, et une très belle émission. Nous avions eu de très bons retours. Et je me suis rendu sur votre marché de Noël à l'invitation du maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza. Je vous avoue que j'ai été émerveillé par ces stands qui composent ce marché, qui est en centre-ville d'Aulnay-sous-Bois. Dites-nous un peu ce marché. Qui le fréquente? Tous les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens, ou plutôt ceux qui ramènent Noël à une connotation religieuse, ou alors c'est très large?
Alors non, c'est effectivement très large. Ça vient de partout, hein. Essentiellement des Aulnaysiens. Mais maintenant, au bout de la 9e édition, on voit des gens arriver d'autres villes et d'un petit peu partout. C'est vraiment un rendez-vous plutôt familial. On y voit papa, maman, les pitchounous, les grands-parents, les oncles, les tantes. Il n'y a vraiment pas de connotation religieuse. C'est plutôt une ambiance familiale et réservée à une ambiance plutôt festive.
C'est volontaire de votre part, par exemple, de ne pas avoir mis de crèche dans ce marché de Noël, ou c'est pas quelque chose auquel vous êtes posé la question?
On ne s'est pas posé la question. Le but, c'était vraiment de lancer cette magie de Noël, des vacances de Noël, parce qu'on le voit, les enfants voient dans nos rues des illuminations, parce qu'à Aulnay-sous-Bois, on les a maintenues. Il y a un esprit un petit peu festif. Donc le but était d'accompagner cette magie de Noël par ce marché avec des animations, des chants, il y a des mascottes, il y a le Père Noël, bien évidemment, qui est sur place. Mais c'est vraiment l'esprit festif autour de la magie de Noël.
Oui, esprit festif, convivialité, les enfants, la joie, la chaleur humaine, c'est tout ce qu'on voit sur votre marché avec les stands qui proviennent souvent de producteurs locaux, hein.
Tout à fait, de producteurs locaux. Il y en a même de la France entière maintenant qu'il vient. On a commencé avec 20 exposants en 2014. Nous sommes à 55 aujourd'hui. Donc chaque année, on étend le marché. Bientôt, il va peut-être falloir qu'on change d'endroit parce qu'il commence à être un petit peu petit. Mais il y a des food trucks, il y a des barbes à papa, des bars à crêpes, des churros. Tout le monde peut déguster ce qu'il veut et puis faire ses courses. Fromager, dattier, produits corses, un petit peu de tout pour tout le monde.
Fabuleux. Moi, encore une fois, j'y suis allé, je me suis rendu sur place. Il y a un esprit convivial. Alors, il faisait très froid lorsque j'y suis allé, ça s'est radouci depuis. Mais je peux vous dire que la chaleur du marché de Noël vous permet d'oublier un peu la fraîcheur des températures parfois. Restez avec nous, Séverine, parce que je vais demander à Ali Damani qu'est-ce qu'il pense en tant qu'imam de ces initiatives de maires dans les collectivités locales qui mettent des crèches dans les halls de collectivités, dans les bâtiments publics. Est-ce que vous, imam, représentant de la communauté musulmane, est-ce que ça vous dérange et vous comprenez la démarche de la Ligue des droits de l'homme qui attaque ces collectivités pour faire enlever les crèches, ou est-ce que vous dites c'est pas utile de venir sur le terrain juridique, laissons les maires prendre ces initiatives, en tout cas ça ne gêne pas la communauté musulmane. Quelle est votre position?
Ben écoutez, Karim, personnellement, donc ça ne me gêne pas et je ne pense pas que ça gêne ainsi la communauté musulmane. Donc, si donc les mairies décident de mettre des crèches, moi, donc, je ne trouve pas ça gênant. Ensuite, c'est une culture, nous sommes en France. Personnellement, donc, ça ne me gêne pas du tout.
Pour vous, la France a des racines et une culture ancestrale chrétienne, et donc la laïcité doit pas faire intrusion dans ce moment festif que lorsqu'un maire met en place une crèche.
Pas du tout, pas du tout. Donc c'est pas gênant pour nous les musulmans, pas du tout.
Et Émile Ackerman, rabbin, vous avez quelle position vous vis-à-vis de ces initiatives ?
Écoutez, Karim, je suis très partagé par rapport à ces initiatives, puisque d'un côté, je reconnais parfaitement que la France a une culture chrétienne et que je ne vais pas la changer. Moi, je n'exige rien de mon statut de minorité. Par contre, je ne rejoins pas Xavier qui parlait donc de laïcard pour la Ligue des droits de l'homme. Je pense que aujourd'hui, dans un contexte assez tendu, où justement on aurait envie que toutes les religions soient traitées à égalité et qu'il n'y ait pas de stigmatisation notamment de la religion musulmane, eh bien, il y a des nouvelles revendications identitaires qui se mettent en place par des maires, notamment des maires de droite ou d'extrême droite, qui veulent instaurer des crèches là où il n'y en avait pas à l'époque, des maires qui ont mis des crèches dont la justice s'est saisie plusieurs fois ces dernières années et qui ont été interdites, ils continuent de les mettre. Donc pour moi, c'est aussi une façon de dire que la laïcité s'applique à toutes et tous et non pas juste aux religions minoritaires. Je pense que la laïcité doit continuer à s'appliquer comme c'est appliqué jusqu'alors, c'est-à-dire aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a été plutôt clair ces dernières années en disant les crèches peuvent être exposées dans les endroits où on a eu l'habitude, on a la tradition de les exposer depuis des nombreuses années, où on peut justifier d'un apport esthétique, artistique ou d'un contexte festif, et où surtout il n'y aurait pas de message religieux ou prosélyte. Donc c'est-à-dire que quand on parle de préserver les crèches, finalement les crèches qui sont là depuis longtemps, elles peuvent être préservées. On parle de nouvelles initiatives qui sont des revendications
donc
identitaires.
Donc vous êtes plutôt réticent parce que vous estimez que ce sont des revendications qui ont plus un caractère politique à travers une idéologie politique et qui nous éloigne de la dimension festive, joyeuse et bon enfant. Restez avec nous. On va avoir Nicolas Cadenne qui est cofondateur de la Vigie de la laïcité et qui est ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité qui est avec nous. Donc nous restons aussi avec notre rabbin, notre imam et la première adjointe au maire d'Aulnay sous Bois que je ferai réagir sur les propos de Nicolas Cadenne dans un instant qui va nous dire ce qu'il pense lui de l'initiative de quelques maires dans la mise en place de crèches dans les halls de collectivités. On revient dans quelques minutes, c'est très court là, restez avec nous.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Je vous avais dit que c'était une courte pause. Hein. Vous avez vu, j'ai tenu parole. Hein. Donc, pour certains, il y a eu un peu de rail, d'autres de la publicité. Donc, en fonction des décrochés, donc vous n'avez pas eu le même intermède. Mais nous sommes ensemble jusqu'à midi. On remercie Xavier Accard d'avoir été avec nous. Il a été obligé de nous quitter. Nous prenons rendez-vous avec Xavier pour la rentrée, pour une émission spéciale sur la laïcité et la relation aux religions dans notre grand et beau pays. Émile Ackerman, rabbin, est toujours avec nous. Ali Damani, imam de la mosquée de la Caplette à Marseille, est toujours avec nous. Séverine Maroun, première adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois également. Et Nicolas Cadenne, que j'annonçais avant la pause, cofondateur de la Vigie de la laïcité et ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Nicolas Cadenne, il connaît parfaitement ces sujets. Il est très pointu sur ces questions. Donc, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Donc vous vous êtes libéré. On vous en remercie. Et d'ailleurs, je fais comme avec Xavier Accard, je vous lance une invitation pour la rentrée en studio pour évoquer pendant 2 heures donc ces sujets éminemment importants pour les équilibres de notre société française et que certains essaient d'instrumentaliser à des fins politiques pour nous diviser. Nicolas, ces crèches dans les collectivités. Qui sont attaqués par la Ligue des droits de l'homme, une grande association humaniste, qui indique que c'est une entorse à la laïcité. Vous estimez que c'est un combat qui est nécessaire, un rappel qui est nécessaire, ou vous pensez que on pourrait laisser passer et c'est pas si dramatique que ça?
C'est un rappel nécessaire, c'est parce que c'est un rappel du droit de ce qu'est la laïcité. Faut savoir, comme ça a été précisé par Émile Ackerman, qu'avant, il y a une quinzaine d'années, aucune mairie n'installait de crèche dans, dans son rôle, hein, c'est tout à fait nouveau. Et les seuls qui le faisaient sont effectivement toujours autorisés, c'est-à-dire qu'elle le faisait dans un contexte très traditionnel de Santon de Provence, par exemple, ou d'autres folklores, et sans marque d'adhésion d'un quelconque culte, sans mettre en avant la religion catholique. Or là, ce qui se passe, ce sont des mairies qui clairement mettent en avant la religion catholique, une identité qui serait supposée uniquement catholique, ou du moins très majoritairement catholique en France, qu'on devrait mettre en avant et privilégier. Alors même que la mairie est c'est la maison commune, hein, c'est la maison de tout le monde, et l'administration publique, comme toute administration publique, doit être neutre et impartiale vis-à-vis de toutes et tous, et donc n'a pas à marquer de préférence ou d'adhésion à un culte en particulier. Donc les crèches, elles sont évidemment pas menacées à l'inverse de ce qu'on entend, elles peuvent toujours être dans les églises, toujours être dans les commerces, toujours être chez soi, et même donc, je le disais, dans des lieux publics, dès lors qu'il y a une vraie tradition ou un folklore local établi, mais en revanche, elles ne doivent pas être instrumentalisées. Des élus effectivement plutôt droite ou d'extrême droite qui en font un outil identitaire pour opposer les uns les autres et pour dire ici on est en France, on est principalement catholique, etc. Alors même que justement la France elle est laïque, et la laïcité c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de majorité ou de minorité, on est toutes et tous à égalité en droit et en devoir, et l'administration nous traite de la même manière, elle ne privilégie pas une religion par rapport à une autre. Mais je le répète, ça n'empêche que dans les lieux privés, évidemment que les crèches sont toujours possible, et même donc dans les lieux où il y a une vraie tradition folklore établie. Et par ailleurs, j'entends aussi que les sapins, les santons seraient menacés. Pas du tout. Les sapins, les santons ne sont pas des symboles religieux en tant que tels et peuvent évidemment être exposés partout.
On note quand même, Nicolas, qu'il n'y a aucune revendication et mobilisation ni de la communauté musulmane ni de la communauté juive vis-à-vis de ces crèches, de ces signes qui peuvent apparaître ostentatoires. Donc non, mais c'est important de le dire parce que c'est important de le dire. Ça veut dire que les musulmans et les juifs ne sont pas dans une démarche de laïcité, de combat ou de compétition, de jalousie ou de quoi que ce soit. Ils nous disent même la France a des racines chrétiennes, donc nous ça nous choque pas. C'est la Ligue des droits de l'homme qui apparaît neutre, qui mène un combat qui est juridique. Mais peut-être que le point important, c'est que c'est un peu ce que nous disait Émile et que vous nous rappeliez, c'est que ces crèches ne sont pas utilisées pour fédérer, pour rassembler, mais pour afficher une forme d'idéologie, de revendication. C'est peut-être là le souci, et c'est peut-être là qu'on devrait expliquer pourquoi la Ligue des droits de l'homme se mobilise.
C'est ça. Vous avez résumé la situation, c'est tout à fait ça. Le problème là, et c'est pour ça quand même qu'il ne faut pas laisser passer, c'est que c'est une instrumentalisation identitaire hein, pour diviser, pour derrière, vous l'avez vu, il y a une proposition de loi derrière qui se fait pour modifier la loi de 1905, et ça c'est pas neutre, hein, c'est grave. Donc ils instrumentalisent ces affaires pour modifier la loi de 1905 et pouvoir modifier son article 28 et du coup permettre d'apposer des symboles religieux mais uniquement catholiques. Donc ça veut dire que demain, si la loi a été modifiée, on pourrait privilégier une seule religion un peu partout, et c'est là où ça deviendrait dangereux. L'administration publique, je le répète, elle doit être neutre, elle respecte tout le monde de la même manière, elle ne doit pas utiliser effectivement des outils comme une crèche pour diviser. Et effectivement, vous avez raison, vous avez mis le point dessus. Là où c'est inquiétant en l'espèce, c'est pas tant que il y a une crèche, c'est l'utilisation qui en est faite pour effectivement afficher une identité.
Restez avec nous, Nicolas, on va vous faire réagir sur une initiative d'un parlementaire qui veut justement modifier la loi sur 1905, 1907. Donc, vous allez nous en dire quelques mots, mais je voudrais que Séverine Mahoun, la première adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois, réagisse quand même à ce qu'on vient d'évoquer là. Vous avez fait le choix, délibérez-vous, de faire un marché de Noël qui n'a aucune connotation religieuse. Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas être, en défaut de respect des principes de la laïcité, encore une fois, et vous avez souhaité garder cette forme de neutralité de par la position de la collectivité locale d'Aulnay-sous-Bois, quelle a été votre position vis-à-vis de ces sujets-là? Et quand vous voyez une collectivité qui met en place une crèche dans un hall, qui est attaquée par la Ligue des droits de l'homme, en tant que premier adjoint d'Aulnay-sous-Bois, vous vous dites quoi? C'est normal?
Alors, moi, c'est très simple. J'estime qu'il n'y a pas besoin de loi pour réguler le bon sens, à mon avis. La religion, de toute façon, c'est le soi profond. Ça doit être à la maison, ça doit être chez soi. Nous, on a fait le choix, effectivement, de ne pas faire de crèche parce que tout devient polémique. Donc, autant éviter de rentrer dans des polémiques qui ne servent à rien. Donc, nous, on a accentué la magie de Noël, la fête familiale, comme je vous le disais, l'union sacrée de la famille, quelque part. Je pense que c'est ce qui nous réunit tous, et dans toutes les religions d'ailleurs. Ce qui n'empêche que Hanouka, l'allumage des lumières, on le fait par respect, parce qu'on y est invité avec monsieur le maire Bruno Béchizard. La fête de l'Aïd, on y est également. Et puis, il y a des crèches vivantes. Enfin, il y en avait une. Là, cette année, il n'y en a pas. Mais habituellement, on a des crèches vivantes. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il peut. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi on y met de la politique là-dedans. Vraiment.
Ouais,
je
vous,
le pense.
Vous dites
je
la
pense
religion.
Qu'on régule du bon sens. La religion.
C'est une affaire personnelle, intérieure. Et lorsqu'il y a des initiatives privées des trois religions monothéistes, de que vous vous rendez à ces manifestations en répondant aux invitations par respect de ces trois religions.
Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, moi je suis mariée avec un Libanais depuis 25 ans. Donc je vais pas revenir sur l'histoire du Liban. Mais une chose m'a marquée. J'avais 25 ans, en plein Beyrouth, là où vous avez une église, vous avez juste à côté une mosquée. Tout le monde vit ensemble. Personne ne se pose des questions. Il n'y a pas de sujet. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait... et le sujet est devenu politique, justement.
Oui, ouais, c'est ce que nous disaient Nicolas Cadenne et Emile Ackermann. C'est utilisé tel un fonds de commerce politique pour instrumentaliser les esprits.
Mais donc, complètement, la politique ne
tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là.
Je le pense profondément.
Merci Séverine. Séverine Maroun, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Hein,
donc, à vous, à tout votre conseil municipal, au maire d'Aulnay-sous-Bois qu'on aime beaucoup, Bruno Béchiza. Hein, prenez soin de vous, à bientôt sur notre antenne.
Très bien, merci.
Merci, au revoir.
Bonne fête.
On va réagir sur une proposition d'un parlementaire, Lou. Est-ce que tu peux nous rappeler, Lou Pineda, que l'initiative qu'un parlementaire a souhaité prendre pour modifier la loi du 1905, quelle est-elle cette initiative?
Alors Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, a apporté son soutien au maire de Béziers, Robert Ménard, suite à la demande de retrait de sa crèche au sein de la mairie. Et en effet, il va plus loin, puisqu'à la veille de Noël, il propose avec 20 sénateurs de modifier cette fameuse loi de 1905 afin de préserver les crèches et traditions immémoriales de la nation française. Il souhaite défendre cet héritage en expliquant que les traditions immémoriales de notre nation, comme les crèches, les galettes des rois, les arbres de Noël, les œufs de Pâques, sont des symboles appréciés par les Français, qu'ils les tiennent de leurs ancêtres au-delà de toute pratique religieuse. Il s'agit donc ici de symboles culturels et non pas cultuels, puisque Noël a depuis longtemps quitté l'univers de la religion. Il propose donc d'établir une distinction entre ceux qui relève du culte et des traditions, rappelant l'importance de garantir les deux dimensions essentielles de l'unité française, la laïcité qui dessine la largeur de l'espace public et l'identité qui lui donne sa profondeur.
Alors, on va faire réagir Nicolas Cadenne et notre avocat Hervé Serroussi, avocat marseillais, qui est là pour nous apporter des éclairages juridiques. Mais avant donc de vous faire réagir à tous les deux, Nicolas et Hervé, je voudrais avoir l'avis de Émile Ackermann et de Ali Damani, donc rabbin et imam, sur cette initiative. En un mot, après je vous libère, messieurs, et merci d'avoir été avec nous. Émile, cette initiative, vous la trouvez décalée, complètement en défaut des principes de laïcité, ou vous dites pourquoi pas faire passer dans la dimension culturelle ces sujets qui peuvent effectivement apparaître en lien avec des grandes fêtes comme Noël?
Écoutez, moi je trouve cette proposition scandaleuse, puisque la loi de 1905 justement s'est construite pour séparer les églises et l'État, et pour contrer cette influence que l'église avait sur l'État français à un moment donné, et donc qui vise à traiter à égalité toutes les religions. Aujourd'hui, modifier la loi de 1905, surtout venant de familles politiques qui disent tout le temps que la loi de 1905 est attaquée, j'y vois tout simplement une forme de revendication identitaire chrétienne qui est justement à l'encontre des principes de la laïcité. Donc modifier cette loi de la laïcité, c'est un scandale, c'est un danger, ça remettra en question une centaine d'années d'héritage de cette laïcité qui justement permet la coexistence active de tous les citoyens français, quelle que soit leur religion.
Merci en tout cas, Émile, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour cette grande émission sur la laïcité et les religions.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Merci, Émile. Passez de belles fêtes et belles fêtes juives avec Hanouka qui arrive
beaucoup,
telle que vous
l'avez expliqué.
À bientôt. Au revoir. Nicolas, Hervé Serroussi, vous êtes tous les deux en ligne avec nous. D'abord, Nicolas Caden, cette initiative, comme Émile Ackermann, vous la trouvez scandaleuse, décalée, ridicule ou pertinente?
Effectivement, scandaleuse dans ce sens où elle confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, c'est donc la logique identitaire qui prévaut, ce n'est plus de la laïcité, c'est vouloir défendre une identité catholique, et en gros c'est revenir à l'idée que la France est uniquement fille aînée de l'Église, alors qu'elle est d'abord fille de la Déclaration des droits de l'homme, si je puis dire. C'est comme ça en tout cas que s'est fondée la loi de 1905, et donc je le disais, il n'y a pas de majorité ou de minorité, on est toutes et tous des Françaises et des Français, on a ensuite nos appartenances propres. Évidemment que la France a connu une influence considérable du catholicisme. Mais pour autant, aujourd'hui, l'administration, elle est neutre, elle traite tout le monde de la même manière. Ça ne veut pas dire que le catholicisme n'est pas présent dans notre quotidien, notre histoire. On le voit bien autour de nous, dans notre patrimoine, etc. Mais il est inutile que l'administration publique change la loi de 1905 pour favoriser une culture ou un culte en particulier. Parce que, à l'inverse de ce que raconte ce sénateur, concernant tout ce qui est réellement culturel, il n'y a aucun problème et ils ne sont absolument pas mis en danger, et tout ce culturel peut parfaitement être exposé dans des lieux publics et même dans des mairies. Donc il n'y a aucun risque pour les sapins de Noël ou je ne sais quoi, ou même les 100 ans. Non, on le répète, ce qui est juste interdit, c'est de marquer une adhésion à un culte. C'est qu'une administration publique marque une préférence pour un culte et une adhésion à un culte, c'est tout. Le reste est tout à fait possible déjà, et donc il n'y a pas besoin de modifier la loi. Là, on revient à l'instrumentalisation politicienne dont on parlait tout à l'heure.
Bon, Nicolas, il faudra que cette émission que nous allons organiser et mettre en place à la rentrée, il faudra effectivement qu'on balaye tous les sujets de laïcité apaisée, laïcité de combat, laïcité qui divise, qui fracture, une laïcité qui permet la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire. Donc on a un tellement beau concept, tellement beau principe de cette laïcité qu'on parfois on comprend pas pourquoi certains tentent de l'utiliser, de l'instrumentaliser pour diviser la société française. Et votre éclairage sera prépondérant pour cette émission de rentrée. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas.
Avec plaisir, merci.
Passez de belles fêtes. Merci, au revoir. Hervé Serroussi, vous êtes avec nous, Hervé?
Oui, bonjour Karim.
Hervé, d'un point de vue purement juridique, cette proposition de loi, elle est décalée, en décalage total, ou elle peut trouver une issue, une voie?
Non, elle est en décalage total, Karim. D'abord, je vous écoutais avec attention depuis tout à l'heure, donc une émission très intéressante. Mais je pense qu'il est indispensable pour moi de poser ce que signifie réellement la loi de 1905, parce que tout le monde en parle, mais dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait véritablement de quoi il s'agit. À l'époque, il y avait la France qui était très imbriquée dans la religion chrétienne. Donc, il y avait une sorte de concordat entre l'Église à l'époque et l'État. En 1905, on a décidé de faire une séparation des pouvoirs avec des points très importants, à savoir que les ministres des cultes ne sont plus rémunérés par l'État, d'accord, il n'y a plus de culte reconnu par l'État, et en l'occurrence, pour ce qui concerne cette proposition faite par le Sénat, notamment l'article 28, il n'y a aucun signe religieux qui ne peut être apposé sur un monument ou un bâtiment public ou un quelconque emplacement public que ce soit. Voilà entre guillemets quelle est la problématique aujourd'hui. Cette loi interdit en réalité à un maire, à une autorité publique, d'apposer un symbole religieux à l'intérieur notamment d'une mairie, un bâtiment public. Aujourd'hui, la véritable question, c'est de savoir est-ce que Noël appartient à un culte ou est-ce que Noël appartient à une culture. Si Noël, c'est une culture française, auquel cas il n'y a pas de difficulté, si Noël, c'est un culte notamment chrétien ou païen, peu importe, c'est un culte, à ce moment-là, bien évidemment, ces crèches sont interdites. Voilà un petit peu le débat qu'il faut, à mon sens, poser dès le départ, quand même.
Vous serez avec nous pour cette grande émission. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être en plateau avec nous?
Ce sera avec plaisir, quand même.
Ben, on va vous faire monter de Marseille, parce que effectivement c'est important qu'on rentre un peu dans le détail de cette loi de 1905, de la manière dont elle est vécue, de la manière dont on doit la vivre, de la manière dont elle est instrumentalisée. Et c'est un vrai et grand sujet qui télescope notre société. On aura besoin de votre éclairage, maître.
Ce sera avec plaisir, quand même.
Merci, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à vous et votre famille, et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup.
Merci, Hervé. Merci. On passe à notre rubrique avant de poursuivre donc sur Noël et la Covid, Noël et l'inflation, Noël et la grève de la SNCF. Petite rubrique que chaque semaine nous mettons en place autour du
Maghreb Actu. Le fait marquant.
Maghreb Actu, je me tourne vers toi, Fodil, pour que tu nous donnes les informations les plus fraîches et les plus récentes concernant Tunisie, Maroc, Algérie. On pourrait rajouter Mauritanie et Libye, puisque ce sont aussi deux pays du Maghreb. Mais c'est vrai qu'on se consacre beaucoup sur Tunisie, Maroc, Algérie, trois pays qui nous tiennent beaucoup à cœur, avec des diasporas très importantes sur le territoire français. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme brève donc assez fraîche et importante concernant ces trois pays?
Eh bien, on va commencer par parler du retour des lions de l'Atlas. À Rabat, les scènes de liesse n'étaient pas qu'à Buenos Aires, en Argentine, ce mardi 20 décembre, mon cher Karim, où les champions du monde argentin ont présenté leur trophée à leurs supporters, puisqu'au même moment, les lions de l'Atlas sont rentrés au pays. Les hommes du sélectionneur Walid Al-Galagi ont fait une entrée triomphale à Rabat, accueillis en héros dans les rues de la capitale, qu'ils ont traversé à bord d'un bus au cœur d'une exaltation totale après leur formidable épopée dans ce mondial qatari, ponctué par une quatrième place, une première dans l'histoire du football africain et arabe. Le bus impérial aux couleurs du pays a rejoint le palais royal où le roi attendait les joueurs et le staff de l'équipe nationale. Les coéquipiers d'Hakim Ziyech ont été reçus dans la soirée par le roi Mohamed VI pour une cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à cet exploit historique des Lions de l'Atlas. Et on va également parler du retour du premier ministre marocain qui a porté plainte contre José Bové en France pour diffamation. Le chef du gouvernement marocain a porté plainte pour diffamation contre José Bové, ancien eurodéputé français, qu'il accusait d'avoir tenté de le soudoyer lors des négociations sur un accord libre-échange. Une accusation portée contre Aziz Akanouche, premier ministre marocain, à un moment où le Parlement européen est ébranlé par un scandale de corruption, mon cher Karim.
En tout cas, on va retenir pour le Maroc effectivement cette épopée à la Coupe du Monde qui a été fabuleuse, ce retour dans une liesse exceptionnelle, avec toujours un grand respect de la part des supporters marocains, à la fois des adversaires, à la fois du contexte. C'est important parce qu'on ne peut pas en dire autant des Algériens. Donc coup de chapeau à la fois à l'équipe nationale du Maroc, mais aussi aux supporters qui se sont comportés de manière remarquable. Concernant la Tunisie, qu'est-ce qu'on a comme info?
Eh bien, on va parler des législatives en Tunisie. 6 mois après le référendum constitutionnel, les Tunisiens ont déserté les bureaux de vote pour élire leur parlement dans le cadre des élections législatives du 17 décembre dernier. Seuls 8,8% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote pour élire les 161 députés qui vont les représenter au Parlement, mon cher Karim.
Mais 8,8%, il y a une crise politique qui pointe là, non?
Eh bien, face à cette crise, l'opposition appelle le président à quitter ses fonctions immédiatement. Après ce revers législatif, Kais Saied se retrouve dans une situation affaiblie dans ses négociations avec le FMI, auprès duquel il sollicite un prêt de 2 milliards de dollars pour faire face à ses dettes et surtout relancer l'économie tunisienne, mon cher Karim.
Sur l'Algérie, qu'est-ce qu'on peut dire?
Eh ben, sur l'Algérie, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été en déplacement à Alger le vendredi 16 décembre. Il a annoncé à l'issue de son entretien avec son homologue algérien, Alamtan Amamala, ministre des Affaires étrangères, un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie depuis le lundi 12 décembre concernant l'octroi des visas par la France aux ressortissants algériens. Rappelons que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était également au même moment à Rabat et a annoncé la levée des restrictions des visas également pour les Marocains, mon cher Karim.
Et les Tunisiens aussi, je crois. C'est pour le Maghreb, pour les trois pays. L'interview du président algérien Abdelmadjid Tebboune sur la télévision nationale algérienne, qu'est-ce que ça a dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes?
Eh ben, dans son entretien régulier avec les médias diffusé hier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a évoqué des questions économiques, sociales, politiques, internationales et nationales, telles que par exemple la question de l'augmentation des salaires. Il a affirmé son engagement à poursuivre l'augmentation des salaires des travailleurs et à prendre les mesures nécessaires l'année prochaine pour assurer une vie décente aux citoyens algériens. Plusieurs catégories seront concernées. Il a indiqué qu'aucun de concrétisation de la numérisation des chèques seront remis pour permettre aux citoyens de vivre dignement. La protection des personnes vulnérables relève de l'équité, a-t-il déclaré.
Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a évoqué les relations algéro-françaises ou pas?
Effectivement, le chef de l'État a également souligné l'importance des relations algéro-françaises, évoquant son très bon rapport avec le chef de l'État français Emmanuel Macron. Il a rappelé que le dossier de la mémoire ne sera point occulté. En revanche, il a affirmé que que les autres aspects de ses relations étaient positifs avec la France, d'autant plus que 5 millions d'Algériens vivent en France, ajoutant qu'il ne les abandonnera pas. Il a déclaré, je le cite, « Nous faisons en sorte d'entretenir la relation solide qui les lie à leur mère patrie ». Fin de citation. Également, autre information pour finir, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS, mon cher Karim.
Eh bien, riche programme en tout cas. On espère effectivement que l'Algérie va pouvoir bénéficier de cette embellie sur le plan énergétique pour redistribuer un peu les richesses à son peuple et faire en sorte que les Algériens puissent vivre de la meilleure des manières. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du retour des Marocains et j'ai salué les supporters, j'ai dit on ne peut pas en dire autant des Argentins. Hein, parce qu'effectivement, les Argentins, je trouve qu'ils sont très mal comportés. On fait une petite pause et on revient. On va parler de Noël et de la Covid avec un professeur de médecine qui sera avec nous.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour pour quasiment la dernière partie de l'émission. De quelle passe si vite cette émission, c'est quelque chose. Chaque semaine, on fait le même constat. C'est impressionnant. Hein. Donc une émission consacrée à Noël. Jusqu'à midi. Aujourd'hui, on a balayé la dimension religieuse et païenne de cette fête. On va évoquer Noël et la Covid. Est-ce que vous êtes inquiet? On a évoqué ces derniers jours le retour de l'épidémie du coronavirus avec la grippe qui est aussi là, la bronchiolite pour les enfants. On a le professeur Frédéric Adnet, professeur de médecine d'urgence et chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny qui est avec nous. Merci. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On s'interrogeait sur ces fêtes de Noël et la nécessité ou pas de maintenir des gestes barrières, de porter un masque, de pouvoir s'embrasser ou pas entre les enfants, les grands-parents. Quelles sont les consignes et quelle est la situation sur le terrain des contaminés, les hospitalisations. On dit qu'elles ont reculé de 4% la semaine passée. Vous le ressentez vous aussi ou vous nous appelez à la vigilance absolue?
Bah écoutez, la situation elle est préoccupante parce qu'on est effectivement en plein dans une triple épidémie, hein, bronchiolite, Covid et grippe. Et chez certains patients qui se contaminent par les deux virus, Covid et grippe. Et pour la grippe, non, on est en pleine ascension. Pour le Covid, on est plutôt sur un plateau. Et pour la bronchiolite, on est plutôt sur un plateau qui descend. Hein, on est plutôt en phase descendante. Mais le cumul des trois nous amène énormément de patients aux urgences, mais le vrai, vrai problème pour nous, c'est de leur trouver des lits d'hospitalisation. Hein. Vous savez qu'il manque beaucoup de soignants, que beaucoup de lits sont fermés par manque de soignants, et c'est là où ça bloque. Hein.
Et vous appelez à quoi, professeur, dans les comportements? Alors, est-ce à dire qu'il faut reporter le masque ou quand même on ne va pas jusque-là?
Ce qui est sûr, c'est que les mesures barrières et en particulier le masque sont très efficaces pour prévenir ces maladies-là. On a vu en 2020 qu'il n'y a pas eu de grippe en France, hein, c'était dû au port du masque. Donc je pense que pour les personnes les plus fragiles, en particulier les sujets âgés et les sujets qui ont des maladies chroniques, et dans les lieux les plus à risque, c'est-à-dire les lieux où il y a de grandes densités de population,
effectivement,
le masque... Le transport, mais aussi les réunions familiales, hein, malheureusement. L'expérience nous a montré lors des dernières vagues de Covid que la cellule familiale était un endroit où il y avait un maximum de contamination. Donc on est vraiment dans une période très très à risque.
Mais c'est fou.
Et donc
quand
moi
même.
je recommande évidemment le port du masque. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est aux politiques de le dire, mais d'un point de vue sanitaire, il est évident que, un, le masque est efficace, et deux, ça nous amènera moins de malades aux urgences et moins de malades en réanimation.
Donc le lavage des mains aussi, évidemment, important?
Oui, dans une moindre mesure. Hein. Si vous voulez, les vrais déterminants de ces épidémies, hein, c'est la contamination par voie orale. Donc on a vu que décontaminer l'air, c'est-à-dire faire que l'air soit très renouvelé assez souvent, donc bien aérer les pièces. Alors ça tombe bien, il fait assez doux, donc on peut le faire. et surtout hein, le port du masque qui arrête les postillons qui portent le virus.
Mais docteur, professeur, on est rentré dans une période où on se dit les marques d'affection, de chaleur humaine, donc les embrassades en famille et autres, si on a l'impression que tout ça est presque révolu. C'est quoi? C'est très conjoncturel ou on est rentré dans une période où il va falloir qu'on s'habitue à garder quand même un peu des gestes barrières c'est quoi cette période dans laquelle on est? C'est fou quand même.
Ce que j'ai remarqué, c'est que les embrassades ont beaucoup diminué, même à lorsqu'on avait plus de Covid, hein, donc entre deux vagues. Donc il y a eu un changement de comportement de la population. Mais c'est sûr que actuellement en pleine grippe, les embrassades, c'est quelque chose à très haut risque de transmission.
Hein. Et vous allez tenir à l'hôpital, professeur, c'est ma dernière question, je vous embête un peu avec ça, mais c'est vrai qu'on se dit l'état de l'hôpital quand même, tous ces plans qu'on nous évoque, ces milliards qu'on nous évoque, on est toujours en train de dire on ferme des lits, on a une pénurie d'effectifs, les gens démissionnent même parce qu'ils sont en burn-out, parfois le personnel soignant qui fait tout pour être au plus près des patients, des malades. Quel est l'état là pendant cette période de fête? Très difficile?
Écoutez, c'est la grande question. Hein. On ne sait pas si l'hôpital va tenir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros embouteillage au niveau des urgences parce que, effectivement, et vous l'avez dit, on manque de soignants, on manque de lits. La situation est plus que critique. Est-ce que l'hôpital va tenir dans ces deux semaines? De toute façon, on est obligé de tenir, mais malheureusement, les patients risquent de trinquer parce qu'on n'arrive pas à les hospitaliser. Effectivement, ça augmente le nombre d'événements indésirables, le nombre d'événements morbides, voire même la mortalité que lorsqu'on fait stagner les patients aux urgences en attendant une place dans l'hôpital.
Merci professeur Frédéric Tandet, professeur de médecine d'urgence et chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Merci, belle fête à vous quand même, hein, professeur.
Merci, bonne fête à
bientôt,
vous.
À bientôt, au revoir. Nous sommes avec Hervé qui est contrôleur dans le Grand Sud, la région Grand Sud de la France. Je voulais que nous évoquions dans cette émission consacrée à Noël la mobilité. Ceux qui sont obligés de voyager pour aller voir leur famille, des enfants, de parents séparés qui eux aussi ont besoin de se déplacer aux quatre coins de France, de traverser le pays souvent. Et ils le font en TGV et la plupart du temps les TGV sont pleins. Et on a eu cette grève des contrôleurs de la SNCF à travers un collectif qui disait il y en a assez, il y en a marre, vous ne prenez pas en compte nos conditions de travail, les difficultés du métier, on n'est pas très bien payé, on n'est pas considéré comme des roulants alors que on a 10 découchés à l'extérieur par mois. On est là pour préserver les recettes, informer les voyageurs, assurer la sécurité des circulations chez MPP en pleine voie, assurer la sûreté des biens et des personnes. Fait, le contrôleur en avait ras la casquette, sans jeu de mots, au sens propre et figuré. On a Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Karim. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Beurre FM. Bonjour.
Hervé, où est-ce que vous en êtes? Alors, j'ai essayé de rappeler que c'était un collectif et c'était pas un syndicat qui était porteur du mouvement. Collectif, comment il s'est créé? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes toujours mobilisé? La discussion hier avec les dirigeants de la SNCF, est-ce qu'elle a donné quelque chose? Dites-nous un peu où nous en sommes.
Hier soir ont été reçus uniquement les organisations syndicales. Les membres du CNA n'ont pas été conviés, hein, puisque la direction n'a eu comme interlocuteur que les syndicats.
Hein, et quand la direction dit qu'elle ne sait pas qui est le collectif, elle ment, elle dit la vérité, quoi?
Bon, oui, non, elle ment, faut dire la vérité là.
Vous êtes identifié, vous avez des porte-parole.
Oui, il y a eu des porte-parole qui représentaient tous les contrôleurs. Il faut pas non plus... on était asyndiqués, comme on disait au départ. Il a fallu, bien sûr, les organisations syndicales pour permettre de poser un préavis. Ça, vous le savez très bien. Ça dure depuis cet été, voilà.
Depuis cet été, ce collectif s'est créé depuis cet été. Vous demandez à discuter, à ce que le dialogue social soit entamé. Et on vous a pas répondu.
Sachez que après Covid, il y a eu beaucoup de monde depuis début d'année. Pour le dire. On a passé un été catastrophique dans les trains, faut reconnaître.
À quel niveau catastrophique? Ça veut dire quoi?
Au niveau du matériel, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de monde d'un coup, La direction, je pense, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de voyageurs qui reprennent le train, parce qu'on sortait d'après Covid, dont les gens ont eu besoin de voyager, ce qui est tout à fait logique. Le problème, c'est que il y a quelques années, 20 ans ou 30 ans, le matériel était entretenu hein, par les ateliers. Il y avait beaucoup plus d'ateliers qu'il y a maintenant, avec beaucoup plus de cheminots qui permettaient d'entretenir.
Alors les suppressions d'effectifs font qu'aujourd'hui il y a moins de monde et autres. Mais quelles sont vos revendications, que les gens comprennent? Pourquoi vous étiez en grève? Ou vous êtes en grève? Parce que je ne sais pas si vous avez levé le préavis ou pas.
Mais pour l'instant, on attend. Je suis comme vous. Je vois dans les médias ce qui a pu être obtenu hier soir entre la direction.
Alors, pourquoi vous faites grève, Hervé? D'abord, rappelez à nos auditeurs. Pourquoi vous êtes parti en grève?
On fait grève parce qu'on a le sentiment. Moi, j'ai une trentaine d'années de service au train. On a le sentiment de ne pas être écouté depuis des mois et des mois par rapport à notre métier. Comme vous l'avez rappelé, Karim, ce n'est plus uniquement contrôler les billets, parce qu'on pense contrôleur, c'est uniquement contrôler les billets. Non. À ce jour, quand je prends mon service, j'attaque mon service, je prépare ma rame, je vérifie ma rame, je fais le départ des trains. Sachez qu'il n'y a plus de chef de gare, comme on disait vulgairement à l'époque, et il n'y a plus de chef de service. Ça, les gens ont pu s'en apercevoir. C'est nous-mêmes qui faisons les départs des trains. C'est-à-dire, je prends mon service, je renseigne les voyageurs, je fais le départ des trains. Donc, vous imaginez un peu toutes les responsabilités que l'on peut avoir, et même une responsabilité pénale. Ça, il faut le savoir. En cas de problème, qui est l'interlocuteur et qui représente la boîte, c'est le contrôleur et le conducteur, dans le deuxième temps, pour responsabilité pénale. Donc, imaginez tout le poids qu'il y a sur nous. Et on nous a rajouté des services et des services d'année en année. D'année en année, on a
supprimé. Vous vouliez quoi, une augmentation de salaire, là? C'était quoi vos revendications?
Mais c'est, d'une part, c'est la reconnaissance du métier. Il y a eu une enquête qui a été faite interne il y a quelques mois, où le premier poste qui a été retenu, c'est le déroulement de carrière et la reconnaissance du métier. C'est-à-dire, on part à la retraite, je vous explique, mon cas, on prend une prime, j'ai un salaire de base, au bout d'une trentaine d'années, de 2100 € net. Voilà, 2100 € net.
Combien d'années de service vous avez?
33
ans de service. On dit que vous 2005. Partez à la retraite à 55 ans, c'est vrai?
Faux, fake, comme on dit maintenant.
À quel âge vous allez partir à la retraite?
Ouverture des droits, je le répète, que les écouteurs et auditrices écoutent bien. On parle à la télé, ils parlent souvent de retraite. Non, on parle d'ouverture des droits qui vous permettent de partir si vous voulez. Sauf que moi, je prends mon cas, c'est 56 ans et 8 ou 9 mois. Avec ça, je pars avec 1100 € de retraite. Voilà.
Mais à quel âge vous allez partir? À quel âge?
Si 61 ans, à 61 ans et 8 mois.
61 ans, donc, quand on dit 55 ans, c'est un mensonge.
C'est un mensonge, totalement.
Quand on dit que les jours de grève sont payés, c'est vrai ou pas?
Bien sûr que non, Karim. Vous savez très bien que je pense qu'il y a plus de 30 ans. Moi, j'ai une trentaine d'années que je suis dans la boîte. Il y a 30 ans, toutes les grèves que j'ai pu faire, bien sûr que je suis ponctionné de mon salaire au niveau
donc
de ma...
Donc vous allez perdre de l'argent, là. Vous enlevez de l'argent
oui,
sur
oui.
Votre salaire.
Mais comptez à peu près 80 € par jour de grève, voilà.
Vous comprenez l'exaspération des Français, ceux qui sont en colère contre vous ou pas?
Ça, je peux le comprendre. On est citoyen avant tout. Ça, c'est normal. Je veux dire, quand vous n'avez pas un moyen de transport qui vous permet d'aller voir votre famille et tout, ça, on le sait. Vous croyez qu'on n'est pas conscient de ça? Vous croyez que ça nous fait plaisir de faire grève le jour de Noël? Non. Je veux dire, c'est scandaleux d'entendre qu'on est des privilégiés. Mais vous ne vous rendez pas compte des aspirations. Je pense que même la direction n'était pas au courant. C'est pas possible qu'on ne soit pas au courant. Ça fait des mois et des mois qu'on les alerte. Des mois et des mois. On n'en peut plus. Je vous le dis, on n'en peut plus.
Et hier soir, il s'est passé une réunion. Apparemment, donc la direction a lâché un peu suite à vos revendications. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez fait grève à ce moment-là et que ça a fait bouger les choses, que la direction a été obligée de répondre à vos revendications? Et malheureusement, malheureusement.
Mais, Karim, oui. On a fait grève le 2 et le 3 décembre, moi. Une grève qui a été suivie comme jamais a été suivie au niveau du service. Jamais. Jamais, je vous le dis. Ça n'a jamais été fait, ça. En 33 ans, je n'ai jamais vu qu'un collectif se monte en quelques semaines. Il y avait plus de 80, de certains endroits, 100% de grévistes. Même dans Eurostar, dans l'Italie, c'est tout. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Si vraiment ils voulaient réellement négocier ou un compromis, on parle de compromis. Moi, je sais, j'ai l'histoire un peu de cheminote. On parle plutôt de compromis. Ce qui ne se fait plus maintenant. Ce qui ne se fait plus maintenant.
Donc le dialogue social, vous dites que c'est la direction qui est fautive?
Ah ben, indéniablement. Nous, depuis le 2-3 décembre, on les avait alertés. On a eu des négociations qui ont été faites le 8 décembre, où il y a eu les 38 € qu'on parle à la télé de plus, mais c'est tout. Ni reconnaissance du métier, ni nos difficultés au quotidien, voilà.
Bon, Hervé, vous pensez, que le préavis, là, avec la discussion d'hier, va être levé, que vous allez reprendre du service?
Là, c'est uniquement, vu que c'est les organisations syndicales qui ont été conviées, on attend un peu le retour de la table ronde, avec exactement les points qui ont été énoncés, même si je vois la télé, on parle de 120 euros de plus, au lieu des 600, on parle de 720 euros brut annuel, hein, j'entends bien, c'est brut annuel, ça fait du 60 euros brut mensuel, au lieu des 38 au départ, de 38 euros net, hein. Donc là, ça va faire dans les 50 euros net à peu près, donc ça fait une dizaine d'euros de plus. Il y a des embauches, alors que nous, c'est pas le but premier pour nous, mais c'est très bien d'embaucher parce qu'on a besoin, nous, de personnel et à bord des trains, ça c'est très bien, et changer un peu le parcours pro, parce qu'il faut connaître que notre boîte maintenant, elle est en FA voyage, c'est-à-dire société anonyme voyage, avec des gens du TGV et du TER. À l'époque, quand je suis rentré, je rentrais au TER, ça me permettait avec l'ancienneté, de passer au TGV, automatiquement. Ça se faisait comme ça. Maintenant, c'est plus possible. Donc, imaginez quelqu'un qui rentre au TER, suivant où il habite, suivant la résidence où il est, eh bien, il va rester au TER toute sa vie.
Oui, si vous rentrez dans la technique, c'est un peu compliqué pour nos auditeurs. Vous nous dites que votre métier avait perdu du sens et vous n'étiez pas considéré. Vous nous dites qu'il y a une petite augmentation de salaire, des effectifs qui vont rentrer en jeu. Donc, vous êtes confiant pour lever les préavis pour la semaine prochaine. Le 31, nos compatriotes pourront prendre le TGV?
Suivant ce qui a été accepté, j'attends de voir exactement les points précis de ce qu'on a obtenu. Je pense que suivant si c'est positif, on parle de compromis, moi j'ai un peu l'expérience à l'ancienneté, je pense que oui, ça pourra être levé.
On rappelle que vous ne faites pas grève par plaisir.
Exactement.
Merci Hervé, bon courage à vous
courage
aux Français qui vont avoir du mal à trouver un train parfois. Hein, moi je vous tire pas dessus parce que je comprends vos difficultés, je comprends votre combat et je dis à la direction de la SNCF, pourquoi vous n'avez pas discuté plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas discuté plus tôt?
Sachez Karim qu'on n'est pas contre les clients, on est avec les clients, on se bat pour eux aussi, on se bat pour nous, je ne vais pas le cacher, mais c'est pour avoir de meilleures conditions de travail et donc de meilleures conditions au niveau des trains, au niveau de la sécurité pour nos voyageurs.
Au revoir,
c'est pour cela qu'on
Hervé,
se bat pour tout.
Bonne fête à
au revoir,
vous.
Bonne fête au revoir. À tout le monde. Au revoir.
Petite pause les amis, on revient pour parler de l'inflation. Noël, l'augmentation des prix, on va avoir un patron de supermarchés, 14 supermarchés sur la région Île-de-France, ça s'appelle Marché Frais, c'est une très belle enseigne. Il est souvent dans les quartiers populaires ou à proximité. Donc c'est Bruno Quadrucci qui est avec nous après cette petite pause pour nous parler de l'inflation des prix. Est-ce que vous êtes allé faire vos courses massivement, acheter des denrées alimentaires pour vous réunir en famille pour faire la fête? Il va tout nous dire, Bruno Quadrucci. Dans quelques minutes, on est ensemble.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour pour la dernière partie des engagés, nous sommes le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. Notre émission a été consacrée en totalité donc à ce week-end de Noël, demain le réveillon, dimanche le 25. Vous allez vous retrouver en famille, on a évoqué la dimension religieuse et païenne de cette fête. Pour certains, il y a une connotation religieuse, vous êtes chrétien, catholique ou protestant. Pour d'autres, vous allez aborder ce week-end de manière culturelle avec une tradition plutôt liée à la culture. Vous retrouvez en famille la convivialité, les enfants, les grands-parents, le repas, les cadeaux, tout ça met du baume au cœur à tout un chacun, qu'il soit croyant ou pas. Nous avons évoqué la Covid, il faut quand même être vigilant parce qu'on a des épidémies donc qui reviennent donc au front, la grippe, la bronchiolite pour les enfants et puis l'épidémie de la Covid qui est toujours là, malheureusement pour les personnes qui sont fragiles, les plus vulnérables. Et puis on a évoqué la grève de la SNCF, on a eu Hervé, un contrôleur, qui nous a évoqué les raisons de la grève. Et c'est vrai que quand il nous explique, c'est quand même pas le discours de la direction ou de ceux qui détestent les cheminots. Donc il y a des raisons et on va peut-être sortir de cette grève parce que la direction s'est décidée enfin à discuter avec les contrôleurs pour trouver une issue. Et là, je souhaitais que l'on évoque la dimension inflation durant cette fête de Noël avec un chef d'entreprise qui est fondateur des supermarchés Marché Frais, qui est une enseigne que vous devez connaître lorsque vous êtes en Île-de-France, puisqu'il y a 14 supermarchés Marché Frais. Les supermarchés Marché Frais, c'est des prix attractifs, dans un environnement très bien organisé, structuré, donc c'est nickel chrome, comme on dit, et tout un chacun y trouve son plaisir à aller consommer chez Marché Frais. Bruno Quadrucci, bonjour.
Bonjour, monsieur Karim.
Vous êtes avec nous, je vous remercie. On se pose la question, pendant cette fête de Noël, cette période, est-ce que nos compatriotes sont partis pour faire des achats, comme ils ont l'habitude de le faire chaque année, pour se réunir, festoyer, consommer en famille et entre amis, ou est-ce que vous avez senti quand même que l'augmentation des prix accusait un petit peu le coup concernant le portefeuille de nos concitoyens? Quel est votre regard dans le contexte à la veille du réveillon?
Mon regard, c'était par rapport à nos magasins. Je dis bien nos magasins, c'est ce qui se passe autant, je ne suis pas trop. Nous, on n'a pas du tout de perte de chiffre d'affaires en ce qui concerne par rapport à l'évolution des prix.
Pas du tout de perte de chiffre d'affaires. Vous êtes au niveau habituel.
Voilà, tout est même un peu plus.
Alors, on va demander à notre journaliste Lou Pineda de nous rappeler un peu le contexte, Bruno. Je vais vous faire réagir dessus. Lou, qu'est-ce qu'on peut dire le moral des Français, l'inflation, l'augmentation des prix
Alors, d'une manière générale, Karim, faire les courses pour le repas de Noël va coûter beaucoup plus cher cette année. D'après les relevés effectués par RTL, la liste de courses coûte près de 30 euros en plus en 2022. Au total, les courses pour une famille de 8 personnes coûtent 217 euros. L'an dernier, pour exactement les mêmes produits, il fallait débourser 189 euros. En tête dans le classement des produits les plus inflationnistes, les blinis et les toasts. Leur prix passe en moyenne de 2,03 euros à 2,54 euros, soit une augmentation de plus de 25%. Suivent la dinde et le chapon en augmentation de 24,11% et le foie gras à plus de 22%. En cause, le coût des matières premières, par exemple les canards à foie gras mangent principalement du maïs et le prix des céréales a explosé avec la guerre en Ukraine. Heureusement, certains produits augmentent moins vite, comme le plateau de fromage ou la boîte de chocolat à plus de 4% d'inflation.
Bruno, quand vous entendez ce tableau qui est dressé par Lou Pineda, notre journaliste, vous, chez vous, les prix ont augmenté ou pas? Vous avez réussi à les maintenir?
Les prix ont augmenté sur l'ensemble des magasins. On va dire que les prix ont augmenté entre 8 et 10% sur l'ensemble des magasins. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des produits qui baissent aussi. Je ne les ai pas en tête. Il y a que on sent aujourd'hui les clients, je pense qu'ils cuisinent plus à la maison. Ils sortent peut-être un peu moins.
Donc ça coûte moins cher.
Ça coûte, quand vous cuisinez, ça coûte pas cher, Karim. Aujourd'hui, on prend une famille de 5 personnes, avec deux ados de 18 ans. Ça fait 5 adultes qui consomment, qui mangent bien, 5 adultes. Mmh. Aujourd'hui, si vous faites les courses chez nous, vous mangez très très bien, matin, midi et soir, entre 850 et 1000 euros par mois. C'est le budget, vous mangez matin, midi et soir, on parle pas de cantine, on parle de rien. Mmh. Vous allez dans une brasserie, vous achetez un coca, je sais pas, 5 euros ou 10 euros. Vous allez dans un magasin, peu importe lequel, ça va coûter 1 euro. Donc je pense que les gens, ils font attention où c'est qu'ils vont, puis où c'est qu'ils consomment. Et l'augmentation, la fréquentation des magasins alimentaires, en ce qui nous concerne, elle a augmenté parce qu'on a une progression des clients. On sent que les clients consomment plus à la maison. Ils cuisinent plus, tout simplement. Et ça coûte moins cher.
Et puis ils n'ont peut-être pas envie de se priver dans cette période de fête, Bruno.
Absolument. Mais chez nous, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Quand je dis chez nous, ça peut être Carrefour ou Champ Leclerc. Et vous allez au restaurant en fin d'année, ça coûte une blinde. Et on mange pas bien, spécialement.
Et
vous faites à la maison, vous consommez pas cher.
Vous faites en sorte d'avoir des produits frais, des circuits courts, privilégier les producteurs locaux, vous?
En tout à fait, non. Parce que producteurs locaux, bien sûr qu'on a tous envie de le faire. Mais quand on dit producteurs locaux, je dis pas qu'il faut pas les faire travailler. On y travaille beaucoup l'été, nous, avec les producteurs locaux. Les marchands de salade, tout ça, c'est région Île-de-France. Mais après, pour du coco, on parle de quoi? Si demain, vous dites à un client qui gagne 1500 balles par mois, vous vendez un produit de producteurs locaux, où vous le payez 20% plus cher, qu'est-ce qu'il fait le gars qui donne à manger à ses gosses?
Oui, mais pour manger bien, il faut manger cher, alors?
Non, pas du tout. Faut pas manger cher. On mange pas cher. Demain, vous avez des pommes chères, des pommes pas chères. C'est une pomme. Manger une golden, il y a une question de calibre. Une grosse golden, elle va coûter plus cher qu'une petite golden. Mais le goût, il n'y a pas grande différence.
D'accord.
Donc, si vous cuisinez et vous achetez vos courses intelligemment, vous ne payez pas cher. Oui, pas cher. Vous achetez pas cher, vous faites des économies. Faut juste avoir le dire, je cuisine à la maison. Mais est-ce que les gens ont envie tous de cuisiner? Nous, on est dans les quartiers très populaires, c'est les grandes familles, ils n'ont pas le choix de cuisiner. Et aujourd'hui, on sent qu'ils cuisinent encore plus qu'avant.
Ouais, il y a un retour effectivement à la cuisine parce que ça coûte moins cher et puis on sait ce qu'on mange aussi. On maîtrise ce que l'on mange en achetant les aliments, bien sûr.
Vous achetez un McDo, un hamburger chez McDo, je sais pas, ça coûte peut-être 5 euros. Si vous le faites chez vous avec 1,50 euro, vous avez un McDo qui fait le double et vous mangez beaucoup plus. Donc vous êtes 5, ça vous coûte 7,50 euros. Vous en achetez un chez McDo, ça coûte 5 euros. Les gens sont pas cons. Alors je dis pas qu'ils vont pas chez le McDo, bien sûr qu'ils y vont, mais je pense qu'ils y vont moins.
Quand on vous écoute, on a envie de créer la rubrique Manger Malin avec Bruno Quadrucci.
C'est pas manger malin, c'est manger cuisiner, c'est tout. Cuisiner. Nous, on vend des barquettes de poissons de 3 kilos. Vous allez acheter du poisson, 3 kilos de poisson, je sais pas, vous payez entre 7 et 10 euros. Mais avec 3 ou 4 kilos de poisson, vous mangez 2 ou 3 fois dans la semaine. On mange de tout si on cuisine, tout simplement.
Merci Bruno, en tout cas, moi voilà. Vous savez ce que j'attends, hein, vous le savez, j'attends un marché frais sur Marseille.
Oui.
Ah, c'est pour quand Bruno? C'est pour quand le marché frais sur Marseille?
Trouvez-moi un terrain Karim,
Vous pensez qu'aux Parisiens.
Voilà.
Bon. Merci en tout cas pour ces conseils, passez de très belles fêtes Bruno. Ah,
merci, à très bientôt, merci
à
beaucoup.
Bientôt, au revoir. Chers amis, c'est la fin de l'émission, 2 heures consacrées à Noël, ce qui m'amène à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Donc rendez-vous vendredi prochain, le 30, nous aurons une émission. Donc nous serons là pour vous, une émission spéciale avec des auditeurs de Beurre FM qui seront nos intervenants, des auditeurs ou même des auditrices. Émission spéciale auditrice de Beurre FM la semaine prochaine, le vendredi 30. Dans l'attente, passez de belles fêtes de Noël, bon week-end, bon réveillon, bon Noël à vous. À bientôt les amis.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.